les plastiques dans l'océan. C'était le thème d'une conférence grand public proposée par l'Université de Bretagne occidentale dans le cadre des Jeudis de la transition écologique. Ces rendez-vous mensuels sont ouverts à tout le monde. Ils permettent d'aborder les grands défis environnementaux et sociétaux contemporains. Et donc en janvier, c'était la chercheure Camille Richon qui revenait sur les pollutions plastiques dans l'océan. Et il y a beaucoup à dire. Nathan Baer a pu l'interviewer.
Camille Richon, chargée de recherche CNRS, océanographe qui travaille au laboratoire des sciences de l'environnement marin à Brest.
Et donc, en quoi exactement consiste votre métier ?
Alors, je suis océanographe et biogéochimiste, donc je travaille sur la pollution plastique dans les océans. Concrètement, j'utilise des modèles numériques pour essayer de représenter la distribution globale des microplastiques dans l'océan et essayer de comprendre comment ils affectent les écosystèmes marins.
Vous faites également de la médiation scientifique ?
Oui, ça m'arrive de temps en temps. J'essaye assez régulièrement de communiquer mes recherches et tous les enjeux autour de ces recherches à un public le plus large possible.
Et donc aujourd'hui, vous nous avez parlé des plastiques.
Oui, effectivement, les plastiques dans les océans, il y en a partout.
Et à quel volume on peut les retrouver ?
Alors, on estime qu'on produit à l'heure actuelle plus de 450 millions de tonnes de plastique par an et que jusqu'à 2% de ces plastiques produits chaque année pourraient arriver dans les océans. Donc c'est plusieurs millions de tonnes de plastique qui arrivent dans les océans chaque année.
Et comment elles se découpent en termes de pertes ?
Donc les tailles de plastique, en fait le plastique c'est une matière qui n'est pas du tout, enfin c'est un polluant mais qui n'est pas du tout homogène, c'est en réalité plein de matériaux différents, plein de compositions différentes et plein d'usages différents. Et par conséquent, les déchets plastiques qui sont produits sont aussi très hétérogènes. Donc on a des déchets qu'on retrouve dans l'environnement qui ont toutes sortes de tailles et toutes sortes de formes. Et ça peut aller en termes de taille de particules qui sont invisibles, qui font quelques nanomètres, quelques micromètres, jusqu'à des déchets qui font plusieurs dizaines de centimètres, voire plusieurs mètres.
Et justement, en termes de spectre, on retrouve plusieurs tailles. Laquelle est la plus dangereuse ?
Alors, en termes d'impact, la dangerosité, elle peut se caractériser par un impact ou par le volume de particules qu'on va avoir dans l'environnement. En termes d'impact et de volume, je dirais que ce sont les plus petites particules qui sont les plus dangereuses, donc les micro- et nanoplastiques, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'ils sont tellement petits qu'ils peuvent interagir avec plein d'organismes, y compris les plus petits organismes qui sont la base des chaînes alimentaires. Et dans une particule de plastique, on retrouve tout un tas d'additifs qui peuvent être libérés par les particules lorsqu'elles sont passées en mer. Et plus une particule est petite, plus cette surface de contact avec la mer, donc plus la libération d'additifs va être potentiellement importante.
Et pensez-vous que éliminer les gros déchets plastiques puisse réduire la part des plus petits ?
En effet, la plupart des petites particules de plastique, des micro et des nanoplastiques, sont produits par la dégradation des plus gros déchets. Donc effectivement, éliminer les gros déchets, ça empêche effectivement la production d'un certain nombre de micro et de nanoparticules.
Et justement, ces nanoparticules, quel impact concret ont-ils sur la biodiversité et l'environnement en général ?
Alors, on a relevé énormément d'impact de ces nanoplastiques sur l'environnement, nano et des microplastiques aussi. En fait, ils peuvent être ingérés par les organismes, ce qui peut provoquer tout un tas d'effets sur leur physiologie, des impacts toxiques. Ils peuvent être aussi donc libérer leurs additifs, ce qui peut entraîner, en fait, rien que par contact avec ces additifs, on peut avoir des effets toxiques qui peuvent être retrouvés. Et puis, dans le cadre des plus petites particules, les nanoplastiques, elles peuvent carrément passer les barrières cellulaires, c'est-à-dire se retrouver dans le sang et dans les organes des différents organismes et donc affecter les organismes d'une multitude de manières. Chez l'homme, par exemple, on a trouvé des traces de plastique dans tout un tas d'organes, le cerveau, les reins, les poumons, le placenta même.
Est-ce que c'est justement ça qu'on appelle les PFAS ?
Alors non, les PFAS, c'est une autre catégorie de polluants. C'est des polluants chimiques qu'on appelle les polluants éternels parce que, en fait, une fois qu'ils sont dans l'environnement, leur durée de vie est extrêmement élevée. Néanmoins, ils peut y avoir des interactions entre les particules de plastique et les PFAS, puisque la particule plastique qui est une particule solide peut absorber, et donc on peut retrouver à la surface des plastiques des polluants chimiques, dont des PFAS.
Et qu'est-ce que vous pensez des plastiques biosourcés, biodégradables ?
Alors, les plastiques biosourcés ou biodégradables peuvent être présentés comme une solution, mais néanmoins, alors déjà, à l'échelle aujourd'hui de la production, on produit 99,9% de plastique à partir du pétrole. Les biosourcés, c'est vraiment anecdotique en termes de volume de production mondiale. Si on voulait augmenter cette production, il faut avoir plusieurs choses en tête. Déjà, les biosourcés, ce sont des plastiques qui ont une partie de leur matière qui est issue de matières organiques. Ça peut être de l'amidon, des algues ou des productions bactériennes ou des choses comme ça. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'un plastique biosourcé contient 100% de matière organique. Souvent, on a aussi du plastique pétrosourcé qui entre dans cette composition. Donc, on ne résoudrait pas tout le problème des plastiques pétrosourcés avec ça. D'autre part, ces plastiques sont aussi additivés, donc leur recyclabilité, etc., va être aussi compliquée que pour des plastiques classiques. Leurs impacts sur l'environnement vont aussi être importants, tout comme les plastiques pétrosourcés. Et sur les biodégradables, en fait, biosourcés et biodégradables, c'est pas la même chose. Biodégradables, un plastique qui est vendu comme biodégradable, c'est souvent pas vraiment le cas. En réalité, beaucoup de plastiques sont biodégradables dans des conditions industrielles, dans des composteurs industriels. Donc, ce n'est pas les composteurs qu'on a chez nous. Et ces composteurs-là, ils consomment énormément d'énergie.
Et donc, pour contrer cet impact, pour essayer de le réduire ou de l'atténuer, que faudrait-il faire ?
Alors, pour vraiment réduire l'impact des plastiques, il faudrait réduire la production. Il n'y a qu'une solution qui fonctionnerait. Vu l'état de la crise environnementale autour des plastiques, il faut réduire la production de plastique. Et pour ça, il faut arriver à réfléchir, ça se passe à l'échelle internationale, sur les usages que l'on a du plastique et des additifs qu'on met dedans et des substances qu'on utilise pour produire ce plastique et réfléchir auxquelles on peut réduire pour réduire cette production globale.
Et le recyclage, est-ce que c'est une fausse bonne idée ?
Le recyclage, c'est globalement une fausse bonne idée. En tout cas, alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de trier sa poubelle jaune. Par contre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à l'échelle de la production globale. Aujourd'hui, on collecte à l'échelle globale, on n'a que 15% des plastiques qui sont collectés pour être recyclés. Et sur ces 15%, on n'en a que les deux tiers qui sont effectivement recyclés. C'est-à-dire qu'on recycle sur toutes les plastiques qu'on produit, il n'y en a que 10% qui vont être recyclés. Donc c'est très faible. Et on ne peut pas vraiment dire qu'on peut augmenter cette proportion parce qu'il y a beaucoup de plastiques qui ne sont pas recyclables chimiquement. Leur composition fait qu'on ne sait pas les recycler. Le recyclage, c'est aussi un petit peu un mensonge parce que quand on parle de recyclage, on sous-entend qu'on va fonctionner en boucle fermée, qu'on va utiliser un déchet, qu'on va le transformer dans une matière qui a exactement les mêmes propriétés que la matière originale et que comme ça, on pourra reproduire à l'infini des matières plastiques. Et en fait, ça, c'est pas vrai puisque à chaque phase de recyclage, la matière, elle perd de ses propriétés. Et donc, on peut pas refaire exactement les mêmes choses avec la matière recyclée. Donc, en fait, les matières recyclées sont utilisées pour d'autres usages que les usages initiaux. Et donc, on a toujours besoin d'insérer du plastique vierge, du plastique pétrosourcé dans la boucle. Donc le recyclage, ça fonctionne pas vraiment pour ces raisons-là principalement, pour beaucoup d'autres raisons aussi.
Et justement, vous nous dites deux tiers qui sont réutilisés et le dernier tiers, où est-ce qu'il disparaît ?
Bah, le dernier tiers, en fait, il vient avec le reste des déchets non recyclables, c'est-à-dire soit dans des incinérateurs, soit dans des décharges, soit au pire, il va finir dans l'environnement d'une manière ou d'une autre.
Et pour finir sur une bonne note, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle où vraiment on est perdu ?
Non, on n'est jamais perdu. La bonne nouvelle, c'est que il y a des négociations qui sont en cours à l'échelle internationale, que donc il y a des négociations pour essayer de se mettre d'accord. Donc les nations essayent de se mettre autour de la table pour trouver des solutions pour gérer cette crise environnementale. Évidemment, comme toutes les négociations internationales, ça va probablement pas assez vite et pas assez fort. Mais la bonne nouvelle quand même dans ça, c'est que les scientifiques ont leur place à la table et les scientifiques font un énorme travail. Il y a une coalition scientifique internationale avec des centaines de chercheurs indépendants qui font un travail vraiment important pour essayer d'amener à la table de ces négociations, pour essayer faire en sorte que les négociateurs aient vraiment toutes les informations scientifiques à jour autour des enjeux de la pollution plastique.
Très bien, merci. Est-ce que vous avez un endroit où on peut vous retrouver ?
Alors, moi, je travaille à Plouzané. Je suis toujours heureuse de discuter avec les personnes qui sont à Plouzané. Et sinon, sur Internet, vous pouvez retrouver mes travaux. Je vous invite à regarder aussi les travaux de la coalition scientifique. Si vous cherchez coalition scientifique pour le traité plastique, vous trouverez plein de ressources et plein d'informations sur cette thématique.
Le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions, l'alimentation durable, la sobriété numérique ou encore les inégalités sociales, ce sont les grands thèmes de ces jeudis de la transition, des conférences tout public proposées par l'Université de Bretagne Occidentale à Brest, une fois par mois, c'est gratuit. La prochaine a lieu au mois de mars. Guettez le programme sur le site internet de l'UBO. En attendant, on referme ce hublot et vous pouvez replonger dans la musique de Transistor, garantie sans polluants.